Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Un Tour d'Histoire, l'émission du département d'histoire et d'archéologie de l'Université de Tours. Je suis Solène Rivoal, enseignante en histoire moderne au département d'histoire et je présenterai aujourd'hui cette cinquième émission. Ce soir, nous vous proposons une émission entièrement construite et réalisée par des étudiantes et des étudiants en deuxième année. Ces derniers ont suivi un cours dont l'objectif était de réfléchir à la place et aux usages de l'histoire dans nos sociétés actuelles. Et ils ont ainsi été amenés à s'interroger sur la manière dont ce qu'ils apprennent en cours pendant leur cursus peut être repris, utilisé et diffusé au-delà des murs de l'université. Alors que ce soit dans les discours politiques, dans des jeux de culture générale, dans des émissions grand public ou encore au cinéma par exemple, l'histoire tient aujourd'hui une place majeure et intéresse un large public non spécialiste. Et c'est d'autant plus vrai en France où l'histoire tient encore une place importante dans les enseignements scolaires, depuis l'école élémentaire jusqu'au lycée, à côté de l'enseignement du français et des mathématiques. Ce qui se perçoit ensuite dans l'engouement des Français pour les émissions d'histoire ou encore pour les sites touristiques. Peut-être vous aussi qui nous écoutez, vous aimez regarder des séries qui utilisent une trame historique importante, ou peut-être à l'approche des vacances avez-vous décidé de visiter certains sites historiques, des châteaux de la Loire ou des grands musées nationaux. Le cours que les étudiants ont suivi était présenté selon trois thématiques. Nous avons ainsi réfléchi ensemble au lien entre histoire et médias, histoire et patrimoine, mais aussi entre histoire et politique. Cette émission est ici consacrée au premier thème que nous avons abordé, histoire et médias. En effet, la radio, la télévision, certains blogs, des sites internet, des chaînes de YouTube ou encore l'industrie du cinéma s'emparent aujourd'hui d'événements historiques qu'ils racontent sous une forme originale et via des supports ludiques. Ce faisant, ils influencent également la vision que le spectateur, le grand public, peut avoir de l'histoire. Toutes les périodes historiques sont concernées par ce phénomène, de l'histoire ancienne à l'histoire contemporaine. Et si l'on prend l'exemple de séries historiques, elles proposent aux spectateurs de suivre les péripéties de soldats romains au début de notre ère, de s'attacher aux exploits légendaires de vikings au Xe siècle, ou encore de s'intéresser à la cour de Louis XIV à Versailles au XVIIe siècle. L'histoire est partout, ce qui interroge de plus en plus les historiens. D'une part, cela questionne les représentations que ces médias véhiculent dans nos sociétés. Et d'autre part, ces usages de l'histoire questionnent également la place et le rôle que les historiens peuvent jouer dans ce phénomène. Par exemple, des réalisateurs de certains films ou de certaines séries s'entourent ainsi de chercheuses et de chercheurs pour tenter de réfléchir à la présentation des faits historiques qu'ils vont mobiliser. D'autres, au contraire, prennent de larges libertés dans le récit des événements, multipliant les anachronismes et les inventions pour les besoins de leur scénario. En tout cas, l'impact de ces réalisations sur les spectateurs et les spectatrices est un sujet de plus en plus interrogé ces derniers temps. Toutes ces réflexions ont été abordées en cours par les étudiantes et les étudiants que vous allez entendre maintenant. Ces derniers vous proposent ainsi des décryptages de supports médiatiques, en essayant à chaque fois de montrer la manière dont ces films ou ces séries sont construits, et en essayant également de réfléchir aux objectifs des réalisateurs et aux visions des événements choisis que cela implique. Les étudiantes et les étudiants qui ont participé à ce projet ont choisi librement le support sur lequel ils souhaitaient travailler et ont également réalisé le décryptage eux-mêmes. Les interventions sont donc des petits reportages que vous allez écouter maintenant, de 10 minutes environ, dans lesquels ils proposent à chaque fois des extraits de films et leurs propres analyses. 5 décryptages vous sont ici proposés, 4 groupes ont choisi de travailler sur des films historiques couvrant des événements très divers, allant du XIIIe siècle aux années 1970. Et un cinquième groupe vous présentera un jeu vidéo centré sur la Première Guerre mondiale. Dans chaque décryptage, les intervenants résument la trame historique utilisée, les éléments marquants de chaque film ou du jeu vidéo, et se proposent enfin de réfléchir à la vision des événements historiques utilisés tout en les reliant aux objectifs des réalisateurs et des développeurs. Et on commence tout de suite avec le premier décryptage historique. Clémence, Corentin, Élise et Valentin vous proposent une analyse du film Black Klansman du réalisateur Spike Lee, sorti en 2018. Ce film est l'adaptation au cinéma d'une opération policière d'infiltration du Ku Klux Klan dans les années 70. Les étudiantes et étudiants de ce groupe vous présentent un film politique et engagé contre le racisme dans la société américaine, en montrant la manière dont l'histoire est utilisée et adaptée par Spike Lee pour dénoncer ces phénomènes. Bonne écoute.
Vous Vous êtes le premier flic noir dans cette ville. On pense que vous pourriez faire bouger les choses ici.
Bonjour et bienvenue dans le décryptage historique en exclusivité sur Radio Campus Tours. Vous avez peut-être déjà entendu l'extrait précédent si vous avez vu le film dont nous allons parler aujourd'hui. Sorti en 2018 et réalisé par Spike Lee, le film Black Klansman est adapté du roman autobiographique du même nom publié en 2014. Il a été récompensé plusieurs fois, notamment d'un Oscar et du Grand Prix du Festival de Cannes. Dans le film, suite à une annonce du Ku Klux Klan dans le journal, le policier noir, Ron Stallworth, décide de rentrer en contact téléphonique avec l'organisation. C'est ainsi que commence son infiltration. Sa mission est de surveiller les agissements des membres du KKK. Le film prend place en 1978, 15 ans à peine après l'abolition des lois ségrégationnistes aux États-Unis. Le racisme est donc encore très présent dans les mentalités. S'ajoute à cela que ça se passe dans un État du Sud, historiquement pro-esclavagiste.
C'est ainsi que commence l'infiltration de Ron Stallworth au sein du Ku Klux Klan. Ron, qui est donc le personnage principal, est le premier policier noir de la ville de Colorado Springs. En raison de sa couleur de peau, il est assisté dans son infiltration par un policier blanc qui dans le film se nomme Flip Zimmerman. Il y a donc deux Ron, le vrai qui communique avec le KKK au téléphone et l'autre, joué par son collègue blanc, qui le remplace physiquement aux activités et réunions du clan.
Tout le long du film, le Ku Klux Klan est tourné en dérision. Ça commence dès le début, où on voit un personnage inventé qui présente sa rhétorique raciste, ségrégationniste et esclavagiste.
Je hais les Noirs. Je hais les Juifs, les Mexicains, les Irlandais, les Italiens et les Chinois.
Sa gestuelle et ses mimiques font qu'on ne le prend pas au sérieux. En 1978, le grand sorcier, c'est-à-dire le plus haut dirigeant du Ku Klux Klan, est David Duke. Durant son infiltration téléphonique, Ron parvient à créer une relation de confiance avec celui-ci. Ironiquement, le grand sorcier ne s'est jamais douté que son interlocuteur était un homme noir. Il va même jusqu'à lui expliquer qu'il peut reconnaître un noir rien qu'à sa façon de parler, différente selon lui de celle d'un homme blanc. Comble du ridicule, il imite même cet accent soi-disant noir.
Dans la dérision du Ku Klux Klan, la figure la plus caricaturale est le personnage inventé de Félix. Il représente les idées et convictions du KKK, et dans son extrémisme, en démontre toute l'absurdité.
Demande à n'importe qui. On te dira que je suis un mec très sympa. Sauf que je suis sympa qu'avec mes amis.
Félix est donc raciste, antisémite et négationniste, homophobe et bien sûr misogyne. Sa misogynie est montrée à travers l'attitude qu'il a envers sa femme Connie. Elle partage les convictions de son mari et va s'associer avec lui dans son projet d'attentat. C'est d'ailleurs à travers ce projet qu'elle est ridiculisée, notamment lorsqu'elle tente en vain de rentrer une bombe dans une boîte aux lettres trop petite. En la mettant ailleurs, elle finit par tuer accidentellement son mari, mari qui déclenche lui-même l'explosion de la bombe.
Opposé au racisme du KKK notamment, on retrouve la communauté noire organisée en mouvement de contestation. Contrairement aux membres de l'organisation suprémaciste, les étudiants noirs, notamment, ne sont pas ridiculisés et bien montrés dans le sens où ils sont sérieux. Certains membres de cette protestation contre le racisme sont même un peu radicaux dans leurs propos. Un des représentants de cette protestation est le personnage inventé de Patrice Dumas. En opposition à Connie, c'est une femme indépendante qui a des responsabilités et qui ne se soumet pas à un homme.
On a encore une opposition avec le KKK lors d'un parallélisme fait entre deux réunions, celle des suprémacistes et celle des étudiants. On a d'un côté une séance cinéma peu sérieuse, prônant le racisme pour le KKK, et d'un autre côté un témoignage poignant organisé par les étudiants noirs du lynchage de Jesse Washington. C'est un événement terrible de 1916, durant lequel un jeune homme noir de 17 ans, condamné à mort, est torturé pendant plusieurs heures, par le feu et l'amputation. Après sa mort, son corps calciné est traîné dans la ville où il habitait. Cependant, dans la scène du film, la culpabilité de Jesse Washington pour le crime où il a plaidé coupable est passée sous silence.
Plusieurs groupes sont montrés dans le film. On a tout d'abord l'Union des étudiants afro-américains de l'université. Cette association, dont Patrice Dumas est la présidente, est inventée, mais elle représente un combat bien réel. Elle montre la lutte des étudiants noirs pour l'égalité. Le personnage de Kwame Touré intervient dans un rassemblement de l'Union des étudiants. Kwame Touré, de son nom d'origine Stokely Carmichael, a réellement existé. Il est présenté comme ayant été un des leaders du mouvement Black Panther. Ce dernier est un mouvement révolutionnaire de libération afro-américaine formé en 1966. Il réclame principalement la fin de l'oppression, la liberté et la fin des brutalités policières pour la communauté noire.
En opposition à ces groupes antiracistes, on retrouve le Ku Klux Klan. C'est une organisation suprémaciste blanche qui a été fondée en 1865 à la fin de la guerre de sécession, suite à la défaite des États confédérés. Le clan prône la suprématie de la race blanche sur les autres races. Le but majeur du KKK est donc le maintien de la suprématie de cette race blanche dans la République américaine. Les activités de l'organisation sont assez spécifiques, ces dernières étant entre autres de petites réunions entre membres, des cérémonies d'intégration ou encore les fameux brûlages de croix. S'ajoutent à cela des séances de tir sur des cibles représentant évidemment des caricatures d'Afro-Américains, les membres possédant chacun des armes à feu. Après ce petit interlude musical, on va se pencher sur l'analyse du film, de ses aspects politiques et historiques. D'abord, il est important de noter que l'enjeu du film est de montrer la place du racisme dans la société américaine à la fin des années 70. Ron Stallworth, le personnage principal, est la parfaite illustration de cet enjeu. On le voit tout au long du film subir du racisme de la part de ses collègues. Les policiers, alors qu'ils sont censés défendre la population sans distinction de couleur, sont pour certains racistes, ceux qui s'illustrent dans leur travail, et d'autres sont passifs vis-à-vis de cette attitude raciste et se défendent en parlant de solidarité entre policiers.
Ce film, à travers son enjeu, insiste sur un devoir de mémoire, celui de l'histoire du racisme aux États-Unis en 1978. Le réalisateur Spike Lee fait donc de ce film davantage un combat politique qu'un film historique. Ça se voit notamment avec le personnage de Flip Zimmerman, celui qui remplace Ron, qui dans le film est juif alors qu'il n'en est rien en réalité. Cet ajout a été fait pour apporter de la complexité selon le réalisateur, mais au-delà de cette complexité, Flip Zimmerman est un outil pour mettre en valeur le côté antisémite du KKK. Spike Lee se sert en fait de l'histoire pour une lutte actuelle et fait donc de son film un film engagé.
Ce rapprochement avec une lutte actuelle est montré avec les événements de Charlottesville de 2017, dont les images clôturent le film. En fait, durant une manifestation contre le racisme, un suprémaciste blanc a foncé dans la foule en voiture, tuant au passage une manifestante et en blessant gravement plusieurs autres. Spike Lee utilise alors politiquement ces événements historiques en diffusant la réaction du président américain Donald Trump, qui s'est contenté de dire qu'il y avait des gens bien des deux côtés, puisqu'en effet, le terroriste provenait d'une autre manifestation, elle raciste, et à laquelle participait d'ailleurs David Duke.
Aujourd'hui, les États-Unis sont toujours marqués par la ségrégation raciale. Même si elle a été abolie dans les années 60, elle n'est pas vraiment terminée, puisque le concept de race est toujours présent dans les mentalités. Cette vision est largement différente de celle de la France, car ici, le mot race n'est plus lié à l'espèce humaine. Concernant les États-Unis, la Chambre des représentants et le Sénat ont présenté leurs excuses pour l'esclavage et la ségrégation en 2008 et en 2009.
Toutefois, la société américaine est encore loin d'être pacifiée, la discrimination étant toujours bien présente. Cette idée se retrouve à la toute fin du film, on a l'apparition d'un drapeau américain retourné et en noir et blanc. Cette image symbolise une situation de détresse où la vie d'un citoyen est en danger.
À travers ce film engagé, Spike Lee pousse alors le spectateur à une prise de conscience par rapport à la présence actuelle du racisme dans la société américaine. On a donc un devoir de mémoire qui se matérialise avec l'utilisation d'extraits de manifestations racistes et antiracistes à la fin du film. Ici, l'histoire est donc utilisée pour une lutte actuelle, la lutte contre la montée des violences racistes. C'était le décryptage historique. Merci de votre écoute. Au revoir.
Changeons maintenant complètement de décor. On continue ce tour d'histoire avec Anaïs, Océane et Manon qui ont choisi de s'intéresser à la réception et au succès d'un film plus ancien, Braveheart de Mel Gibson, sorti en 1995. Dans leur décryptage, qui revient sur les libertés prises par le réalisateur pour raconter les relations entre l'Angleterre et l'Écosse à la fin du XIIIe siècle, ces trois étudiantes s'intéressent à l'image sombre et violente de l'époque médiévale que le film contribue à renforcer chez les spectateurs.
«
Braveheart est un film de 1995. Il s'agit du deuxième film réalisé par Mel Gibson. C'est une romance dans un contexte historique. Mel Gibson joue le rôle principal de William Wallace aux côtés de l'actrice Sophie Marceau, qui joue quant à elle Isabelle de France. Ce film, qui dure 3 heures, a eu pour budget 72 millions de dollars et a remporté environ 210 millions de dollars. Braveheart a remporté 5 Oscars. Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure photographie, du meilleur montage de son, ainsi que celui du meilleur maquillage et coiffure. Le personnage de William Wallace est inspiré d'une personnalité historique écossaise qui devient une figure iconique face aux Anglais en 1297. Le roi Édouard Ier d'Angleterre, joué par Patrick McGowan, a fini par écraser la rébellion menée par William Wallace. C'est un épisode historique qui est très souvent mis en avant dans l'histoire de l'Écosse. La répercussion de l'événement est aussi intéressante que l'histoire en elle-même. Finalement, le film de Mel Gibson est une des nombreuses réceptions de cet épisode qui devient presque un mythe, mais cette histoire était méconnue du reste du monde. Dès le début, Mel Gibson précise que son film est romancé. Braveheart veut dire cœur courageux, tout un programme, et donc comporte sûrement des erreurs et ou inexactitudes historiques, mais son intérêt n'est pas là. Il livre un film épique, violent et tragique. Ce film sert à construire une légende, et ce, au-delà de l'Écosse. Alors, ensuite, je vais vous parler du contexte et des événements historiques de William Wallace, dont on sait finalement peu de choses. Nous n'avons pas beaucoup d'éléments sur ce personnage en lui-même. Il est présenté comme un paysan de famille assez modeste et selon certaines études, il était en réalité membre de la noblesse depuis plusieurs générations. Donc, c'est un film romantique qui peut être découpé en deux parties, avec dans un premier temps une partie analytique qui plante le décor, qui présente les personnages ainsi que leurs ambitions. La seconde partie concerne la lutte et la guerre pour l'indépendance écossaise, donc c'est une série de batailles militaires qui opposent l'Écosse et l'Angleterre durant la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle. Je vais vous parler maintenant du contexte historique. En 1286, le roi d'Écosse Alexandre III meurt sans héritier et plusieurs prétendants se manifestent, dont Robert de Bruce et Jean Balliol. Ils se disputent donc la couronne. Les nobles écossais demandent alors l'arbitrage du roi d'Angleterre, Édouard Ier. Celui-ci met Jean Balliol sur le trône et affirme qu'il est son vassal. L'Écosse, dans un premier temps, se soumet à l'autorité d'Édouard, mais les Anglais veulent envahir la France alors que les Écossais ont une alliance avec eux. Mel Gibson s'est servi de ces éléments-là pour créer un film romancé et écrire la vie de William Wallace à sa manière. Le film se déroule donc en 1280. À ce moment-là, l'Écosse est sous l'influence d'Édouard Ier, joué ici par Patrick McGowan. Le roi d'Angleterre, Édouard Ier, occupe le sud de l'Écosse. William Wallace, joué par Mel Gibson, suite aux oppressions, perd son père, son frère et son premier amour. Il va se venger et débute une quête vers l'indépendance de l'Écosse. William lève une armée de paysans, décide de prendre la tête de l'insurrection contre les Anglais. C'est donc un soulèvement révolutionnaire écossais qui se met en place. Le 11 septembre 1297, la bataille de Stirling a lieu. Donc, une partie du film développe cette bataille qui a lieu le 11 septembre 1297 et qui est gagnée par l'Écosse. William, par la suite, est fait prisonnier. Isabelle de France, son amante durant le film, le soutient et est enceinte de William Wallace, qui sera le futur Édouard III d'Angleterre. je vais vous parler de la critique de ce film. L'avantage de ce film reste l'atmosphère ambiante avec des filtres de couleur bleu et gris pour accentuer le froid, les décors de l'Écosse et d'Irlande, les musiques prenantes et surtout les batailles. On a le droit à de terribles batailles opposant des centaines de figurants dans lesquels jaillit beaucoup de sang, c'est d'une sauvagerie extrême. Le film s'intéresse à un personnage assez bien connu, mais l'histoire qui est représentée est très légendée. En effet, les faits historiques sur Wallace sont très peu représentés, il reste très romancé puisqu'il s'appuie sur un poème ancien de Blind Harry et met en scène de nombreux éléments ne tenant pas compte de la véritable trame historique. L'origine du conflit dans Braveheart est la mort de la femme de William, qu'il épouse en secret car dans le film le seigneur détient la prima noctée, appelée le droit de cuissage, or celui-ci n'existe pas. Certains écrits en parlent, mais il n'y a pas de preuves officielles. Cela peut être une pure invention du scénario. De même, William Wallace n'a jamais rencontré Isabelle de France. En effet, Isabelle est née en 1295, son mariage n'a lieu qu'en 1308, soit 3 ans après la mort de William Wallace. Pendant cette invasion, elle n'avait que 2 ans, elle n'a donc pas pu avoir de liaison avec le héros principal et ne l'a jamais rencontré. L'un des éléments qui le pousse à se rebeller dans le film, c'est l'exécution de sa femme, mais ça encore, ce n'est pas certain. C'est un film qui est destiné aux Américains et à un public occidental. Ici, la famille est mise en avant. C'est une sorte de motivation personnelle, ce qui est autant un mode de fonctionnement médiéval que la société actuelle. Cela en dit finalement beaucoup plus sur la société qui produit le film. La place des femmes dans ce film est simple. Elles n'ont pas vraiment de rôle, sauf celui de subir la violence. Or, à cette époque, certaines femmes ont joué un rôle politique et même économique et social, surtout en Angleterre. Le droit de cuissage renvoie donc à une caricature de cette époque sur le statut de la femme. Enfin, les batailles décrites dans le film ne ressemblent en rien aux véritables affrontements. La bataille de Stirling s'est en réalité déroulée sur un pont, d'où son nom de bataille du pont de Stirling. Mais dans le film, elle est reconstituée avec une charge de cavalerie sur les forces écossaises. De plus, et c'est le plus marquant, car on remarque cet élément tout au long du film, les kilts n'existaient pas à cette époque. Ils ne sont apparus qu'au XVIe siècle, voire au XVIIIe, alors que le film se déroule au XIIIe siècle. De même, lorsque Wallace assiège York et remporte la bataille, il s'agit d'une erreur. Car en réalité, les Écossais ne sont pas allés jusqu'à York. Ils ne disposaient pas non plus de l'équipement pour attaquer efficacement une fortification. À cette époque, l'organisation militaire était plus aléatoire. Les armures coûtaient cher et les soldats n'avaient pas les moyens de s'en procurer. Chacun venait avec ce qu'il avait ou ce qu'on lui avait prêté. Or, dans le film, l'armée est assortie. Les soldats ont tous la même armure. Cette massification de soldats insiste sur l'ordre de bataille rangé, mais dans la réalité, ils sont beaucoup moins nombreux. Mel Gibson veut mettre l'accent sur un groupe robuste et soudé qui lutte contre l'ennemi. Le cliché hollywoodien est très présent. L'héroïsme d'un homme, la justice qu'il subit et son désir de vengeance sont des valeurs représentées dans beaucoup de films.
Ce film a créé un véritable engouement autour de l'Écosse et de ce personnage une fois le film sorti. Les sites des batailles deviennent des lieux touristiques. Les Oscars et le succès au cinéma montrent que Mel Gibson a créé un film qui a captivé nos sociétés. Mais le film a sans doute plu parce qu'il véhicule de nombreuses valeurs qui parlent aux gens qui sont allés le voir, amour, amitié, injustice et vengeance. En revanche, c'est un film qui renforce les clichés du Moyen-Âge. Période qui est présentée comme une époque sombre, cruelle, parfois presque barbare, et les historiens médiévistes ont de la peine à modifier ces clichés dans l'imaginaire actuel.
Sans transition, passons des champs de bataille écossais aux tranchées de la Première Guerre mondiale. Le premier décryptage est centré sur un support original, celui d'un jeu vidéo, dans lequel le joueur peut incarner un soldat français, ou allemand, ou américain, ou encore une infirmière belge. Enzo, Pierre-Vincent, Sébastien et Vincent, amateurs de jeux vidéo, vous proposent ce jeu original puisqu'il s'agit d'un jeu de guerre dans lequel le but n'est pas seulement de se battre mais de résoudre aussi des énigmes. Les étudiants qui ont préparé cette séquence s'interrogent sur la vision que ce jeu donne de la Première Guerre mondiale en remettant cette création dans un contexte précis, celui de la commémoration de cette guerre. Un soldat inconnu, jeu sorti en 2014, participe ainsi selon eux aux enjeux mémoriels dans nos sociétés.
1er août 1914. Suite à l'assassinat de François Ferdinand, prince héritier de l'Empire austro-hongrois, l'Empire germanique déclare la guerre à la Russie. Par le jeu des alliances, la France se prépare à entrer en conflit. Quelques heures après l'annonce de la mobilisation générale, les Allemands vivant en France sont priés de quitter le pays.
Le soldat inconnu, Mémoire de la Grande Guerre, est un jeu développé par Ubisoft Montpellier, sorti à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. Il retrace quelques événements marquants de ce moment historique. Les développeurs ont choisi de faire incarner quatre personnages aux joueurs. Le premier est Émile, un Français qui a été mobilisé afin de faire partie de l'armée française. Le deuxième est Karl, le beau-fils d'Émile qui est rapatrié en Allemagne afin de faire partie de l'armée allemande. Le troisième est Freddy, un soldat américain volontaire. Et enfin, Anna, une infirmière belge qui fera tout son possible afin de venir en aide aux blessés. Ces quatre personnages sont finalement reliés par Walt, un chien secouriste, un chien allemand qui est incapable de faire la distinction entre les différents camps et qui est bien sûr ignore le conflit. Leur mission est différente pour chaque personnage. Cependant, la principale est une histoire d'amour brisée entre Marie, une jeune Française, et Karl, un jeune Allemand mobilisé. Émile, le père de Marie, va également partir sur le front. Sa mission, quant à lui, sera donc de ramener Karl vivant à sa fille. Anna, infirmière belge, doit trouver son père, qui a été fait prisonnier. Elle peut soigner aussi bien soldats français, britanniques qu'allemands. Tout dépend de la volonté du joueur. Il y a une volonté humaniste à ne pas choisir de camp. Freddy, quant à lui, fait partie des 128 soldats américains qui se sont engagés au début de la guerre. Les personnages peuvent aider tous ceux qui sont en difficulté, si le joueur le souhaite. Chacun a son propre objectif et sa motivation personnelle, et chacun a une spécialité propre. Émile, le Français par exemple, peut creuser avec une pelle. L'Américain, Freddy, a une pince coupe barbelée. Anna, infirmière, peut soigner tout le monde. Et Karl, l'Allemand, peut se déguiser. Le chien, quant à lui, permet de résoudre des puzzles, nous apporte des objets. Le jeu débute donc peu de temps après l'assassinat de François Ferdinand en 1914 et nous suivons la succession d'événements historiques comme la mobilisation française de 1914, la bataille de Verdun, etc.
Alors effectivement, comme l'a dit mon collègue Vincent, nous incarnons plusieurs personnages, donc quatre, notamment Émile le Français, représenté par la tenue française, bleu et rouge, ainsi que sa barbe, qui représente donc les poilus pendant la Grande Guerre. Nous avons ensuite Karl, l'Allemand, qui est représenté avec la tenue militaire allemande, la tenue kaki, hein, on connaît. Aussi, on peut reprendre, les Allemands sont représentés aussi, les officiers par la croix de guerre, notamment, et puis aussi les casques à pointe. Nous avons aussi Freddy, l'Américain. Alors, on peut préciser aussi que Freddy a été dans la Légion étrangère dans ce jeu, puisque là, les États-Unis sont engagés dans la Première Guerre mondiale qu'en 1917. Et puis nous avons Anna, la Belge, la femme, la médecin, qui vient de Ypres, grandement touchée pendant la Grande Guerre. Et puis comme autre élément historique, nous avons effectivement les noms de batailles comme Verdun, une des plus grandes batailles, voire même la plus grande bataille qui a fait le plus de morts pendant la Grande Guerre, donc plus de 500 000, si je me souviens bien. Nous avons la bataille de la Marne aussi, et puis d'autres lieux, comme le lieu de mobilisation d'Émile, par exemple.
Nous vivons donc les moments forts de la Grande Guerre à travers les personnages créés par les développeurs. Mais en plus de ça, ils ont également fait en sorte que chaque personnage jouable ait leur personnalité bien à eux. Par exemple, Émile Chaillon fera tout son possible pour tenir son rang de soldat et soutenir l'armée française. Mais il va également essayer de maintenir la promesse faite à sa fille après avoir reçu sa convocation, qui était de ramener Karl auprès d'elle. En créant des personnages forts, les développeurs ont réussi à me faire ressentir la dureté de la Grande Guerre. Nous avons aussi souligné le fait qu'aucun personnage a Dieu, et nous pouvons donc l'interpréter de deux manières. La première serait un moyen de faciliter le lien entre le joueur et ses personnages en faisant de ce premier un véritable spectateur des événements de la Première Guerre mondiale. Nous serions donc les témoins du massacre qu'a été cet événement dramatique. Enfin, la deuxième est que l'absence des yeux sur chacun des personnages dessinés pourrait montrer le fait que les participants de cette guerre ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient en rejoignant les rangs de l'armée française et en pensant que cette guerre serait courte. Bien qu'anachronique, j'ai noté que le studio a décidé d'utiliser de la musique classique, comme le galop infernal d'Offenbach, pour souligner les moments forts du jeu, mais aussi de la Grande Guerre. Ici, la musique d'Offenbach est utilisée lors de la mobilisation des taxis de la Marne, qui avait pour but d'acheminer un grand nombre de soldats vers la Marne afin de lutter contre les Allemands qui se rapprochaient trop près de Paris. La musique, ici, a un rythme rapide, et la mobilisation des taxis de la Marne avait justement pour but d'acheminer le plus rapidement possible un grand nombre de soldats. Alors même si cet événement n'est pas un véritable tournant de la guerre, les développeurs ont su créer une tension en utilisant cette musique.
Vraiment aborder l'histoire de manière neutre. Il y a toujours la façon dont on va l'aborder va conditionner le regard qu'on a dessus. Donc ici, les développeurs ont fait le choix de pas vraiment s'attarder sur les grandes figures historiques, celles qu'on va retrouver dans les cours d'histoire traditionnels. C'est là les seules mentions qui en sont faites, c'est le baron von Dorf, qui correspond dans la réalité au baron von Otzendorf, qui va être donc l'ennemi récurrent qu'on va retrouver tout au long de l'affrontement, celui qui a kidnappé le père d'Anna. Et du coup l'archiduc François Ferdinand qui va poser le cadre au tout début par sa mort. Et à côté de ça, donc le jeu il va beaucoup plus, il va se concentrer essentiellement sur le peuple, sur les gens. Ça va parler de leur vie et comment est-ce qu'elles sont tranchées par la guerre. Donc ça va être à la fois les quatre personnages qu'on va incarner, mais aussi les populations civiles. Qui vont voir le cours de leur vie chamboulée. Donc on va avoir d'un côté les personnes qui se font enrôler, à côté de ça les civils donc, qui sont touchés, le travail doit continuer, il faut maintenir une économie de guerre, la guerre qui va se poursuivre contrairement à ce qui était prévu. Donc on a le travail dans les champs qui doit être maintenu pour pouvoir nourrir à la fois les soldats et la population, le travail dans les usines qui doit être assuré. Donc tout ça, c'est notamment assuré par les femmes qui sont restées à l'arrière, les enfants et les vieillards, ceux qui ont moins de 18 ans et plus de 48 ans. On a aussi les infirmières qui sont présentes à l'arrière des lignes de front, qui sont représentées comme, dans le jeu comme les anges, souvent la dernière personne que va voir le soldat avant de mourir. Et donc tous ces civils, ils sont également touchés par les dommages collatéraux de la guerre, entre guillemets, où c'est la première guerre qui va autant s'attaquer aux civils, où il va y avoir autant de pertes. On a notamment un épisode dans la ville d'Amiens qui est sujette au bombardement, à la fois explosif et de gaz, et on voit les populations qui sont piégées, qui vont être en détresse, et donc le joueur va pouvoir les aider, mais il y en aura énormément pour lesquels il ne pourra rien faire, et parce que voilà, dans la vraie vie, on n'a rien pu faire pour elle. À côté de ça, le joueur va pouvoir constater l'évolution de la guerre très rapide avec l'arrivée de nouvelles technologies. Donc au début, quand on commence, c'est la baïonnette au bout du fusil, le pantalon rouge et bien visible. C'est l'été, les Allemands et les Français sont partis pour une guerre de 2 mois. Il y a la joie dans les deux camps, c'est des bleus. Et puis très vite, la guerre vient les frapper. On a les personnages qui sont de plus en plus courbés, qui sont de plus en plus enterrés dans la boue, qui rampent. Les tranchées sont dévastées. Les malades, l'hiver s'installe. Entre les bombardements incessants aux mortiers, les mitrailleuses, l'invention des mitrailleuses, l'armement de l'aviation, les attaques au gaz, les lance-flammes, puis les chars d'assaut. Le joueur va être confronté à toutes ces choses qui vont venir briser les soldats, en fait. Voilà, c'est vraiment le jeu vous met dans un contexte qui évolue et qui fait ressentir en fait toute l'horreur de la situation, bien plus qu'un court. Là, voilà, vous incarnez vraiment ce visage. Et donc, on finit. Plus on avance dans le jeu, plus le conflit s'intensifie. Et on finit avec la bataille de la Marne, où là, c'est le summum de l'horreur, où on doit se cacher derrière des montagnes de cadavres. Il y a des amputés partout. L'ombre de l'ennemi est toujours présente. Voilà.
Le studio de développement a travaillé en étroite collaboration avec l'historien Alexandre Lafont, docteur en histoire contemporaine, conseiller pédagogique auprès de la mission centenaire de la Première Guerre mondiale et la mission centenaire, afin de faire correspondre les événements présents dans le jeu aux réalités historiques, en plus de s'inspirer fortement des lettres écrites lors de la Première Guerre mondiale.
Même si leurs corps sont depuis longtemps retournés à la poussière, leurs sacrifices continuent de vivre en nous. Nous devons chérir leur mémoire. Nous n'avons pas le droit d'oublier.
Le but du jeu, mis à part l'argent, est de faire apprendre l'histoire de manière plus ludique aux plus jeunes, mais aussi le travail de mémoire, grâce aux fiches présentes dans le jeu, comme la présence de soldats indiens, de soldats de tirailleurs sénégalais, etc. Le jeu a été créé en partenariat avec les réalisateurs de la série Apocalypse.
En proposant le jeu à un petit prix, en se rapprochant esthétiquement le plus possible des dessins de la bande dessinée, les développeurs ont rendu accessible une partie de l'histoire à tous ceux qui sont les plus intéressés de faits historiques, aux personnes qui n'aiment pas forcément l'histoire, en rendant l'expérience de la Grande Guerre ludique et unique. Enfin, contrairement au jeu actuel, Soldats Inconnus tente de se démarquer des autres jeux de guerre en proposant une approche différente. Là où la majorité des jeux sont des jeux de tir à la première personne, Soldats Inconnus est un jeu de réflexion qui propose de nous faire vivre fidèlement certains événements de la Grande Guerre. Ce jeu a également su me faire prendre conscience des vies qui ont été engagées dans ce triste événement, là où l'école nous parle de dates, de chiffres et de géopolitique, pour nous montrer l'ampleur de cette guerre, en proposant un véritable travail de mémoire.
Et pour ceux qui veulent connaître la fin du jeu, il faudra jouer. Le jeu coûte pas très cher, vous pouvez l'avoir pour 15€, et franchement c'est une bonne aventure. Et si jamais vous voulez pas y jouer mais connaître la fin quand même, il y a plusieurs vidéos qui vous permettent de la découvrir.
L'avant-dernier décryptage a été réalisé par Eva, Léa, Maëva et Romane. Comme le groupe précédent, ces étudiantes s'interrogent sur les enjeux de mémoire, mais cette fois-ci pour des événements historiques qui concernent la Seconde Guerre mondiale. Elles ont choisi de parler aujourd'hui de La Rafle, film sorti en 2009. Ce film met en scène un épisode que beaucoup appellent aujourd'hui la Rafle du Veldiv, ce moment où des milliers de Français sont enfermés dans le Vélodrome d'hiver de Paris, en attendant leur déportation au motif qu'ils sont de confession juive. Ce décryptage revient ainsi sur les événements relatés, tout en essayant de les replacer dans des enjeux de mémoire actuels, et dans le combat de la réalisatrice contre l'antisémitisme.
Aujourd'hui, on va vous présenter le film La Rafle. Il est bon de savoir que le nom Rafle provient de l'allemand Raffle, qui correspond à une opération policière exécutée à l'improviste dans un lieu suspect en vue d'appréhender les personnes qui s'y trouvent et de vérifier leur identité, mais signifie aussi une arrestation massive. La Rafle est un film français réalisé par Roselyne Bosch en 2010. Ce film évoque la période de la Seconde Guerre mondiale qui a lieu entre le 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945, entre les Alliés, dont la France faisait partie face aux puissances de l'Axe, avec comme acteur premier l'Allemagne nazie. La partie nord de la France était sous occupation nazie depuis juillet 1940, quant au sud, il y a la mise en place du régime de Vichy, dirigé par le maréchal français Pétain. La réalisatrice se focalise sur la collaboration de policiers et gendarmes français dans ce génocide. Il est donc intéressant de se poser la question, comment le cinéma participe-t-il à la transmission de la mémoire ? Tout d'abord, il est important de signaler que ce film se focalise sur la population française juive, notamment les enfants. On ne sacralise pas donc un personnage ou un héros en particulier. C'est la Rafle vue par la population ordinaire française et non par des policiers ou militaires. Cette œuvre met en avant la collaboration de la France. En effet, la France du régime de Vichy a arrêté et enfermé plus de 13 000 juifs dans un stade, avant de les envoyer dans un camp de concentration et d'extermination pour la solution finale. Le film se fait donc un devoir de mémoire, rappelant la collaboration française en trois moments concrets. La Rafle, filmée dans un Montmartre à l'aube du 16 juillet 1942. Les journées passées dans le Veldiv, reconstituées du 16 au 17 juillet 1942 à Paris. Le séjour dans le camp de Baume-la-Roland, où donc des gendarmes français en assuraient la surveillance avant le départ des Juifs vers l'Est. De plus, l'affiche nous permet d'insister sur la collaboration que la France a pu avoir avec le régime nazi. En effet, la croix gammée nous rappelle l'occupation. On voit un policier français embarquer deux enfants vers la déportation. Les lampadaires allumés montrent aussi le fait que les rafles se produisaient la nuit et qu'elles étaient cachées de la population. Le nom « La Rafle » est écrit en rouge, ce qui est la couleur du sang, mais aussi celle du drapeau nazi. Aussi, dans le film, on peut voir que le temps est plutôt maussade, ce qui peut correspondre à une période de tristesse et d'enfer, comme le reflète la Seconde Guerre mondiale.
De plus, nous pouvons voir que de nombreuses vérités historiques sont relatées dans le film. Pendant l'été 1942, la France est sous l'occupation allemande. Les Juifs sont obligés de porter l'étoile jaune, comme on le voit dans le film, à travers notamment les enfants juifs. Cette étoile est un symbole discriminant, constamment présent dans leur vie. Le film met en valeur de nombreux lieux, tels que la butte de Montmartre pour la Rafle, lieu donc connu des Parisiens et des connistes, qui permet donc un certain repérage pour les spectateurs. Montmartre est montré tel un petit paradis afin de montrer le contraste avec l'enfer que les Juifs vont vivre par la suite. Enfer qu'ils vivent dans le lieu de regroupement qui est le Veldiv, où l'on voit entasser des milliers de Juifs. Les camps de transit et de concentration sont aussi exposés dans le film pour reconstituer la véritable histoire de ces milliers de personnes ayant subi un traitement injuste et inhumain. En effet, il est possible de voir dans cette réalisation des décors tels que les trains à vapeur, les vêtements qui représentent la période du XXe siècle. Les personnages sont inspirés de vraies personnes, pas seulement pour Hitler, Pétain, mais également les personnes juives, comme le personnage principal de Joseph Weissmann, ou encore le personnage de l'infirmière. L'infirmière est incarnée par Mélanie Laurent, une actrice qui prend le rôle d'Annette Monod. Cette femme a existé et a pris le surnom de l'Ange du Veldiv, car elle consacra sa vie aux prisonniers. elle est intervenue dans le camp de Beaune-la-Rolande, un camp que nous pouvons voir dans le film. Annette est devenue célèbre grâce au film La Rafle. On peut ainsi comprendre qu'elle a pris de nombreuses initiatives personnelles pour le soutien des internés juifs. Elle fut un témoin majeur. Le survivant, Joseph Weissmann, a lui-même participé à la Seconde Guerre mondiale en position de victime. Son histoire a été retracée dans le film La Rafle par l'acteur Hugo Le Verdez. Ce fameux survivant parvient à s'évader du camp de Beaune-la-Rolande avec un ami, tous deux portant le nom de Joseph.
Désormais, nous avons pu entendre le 16 juillet 1995 Jacques Chirac reconnaître la responsabilité de l'État dans un discours du Vélodrome d'hiver de Paris, car auparavant, aucun représentant de l'État français a voulu l'admettre. En 2012, François Hollande va plus loin et dit « La vérité, c'est que ce crime fut commis en France par la France ». Le devoir de mémoire est alors l'importance de se rappeler des actions ou erreurs commises par l'homme par le passé, pour que l'homme ne les commette plus. Le film La Rafle n'essaie pas d'attendrir les spectateurs via une étoile de fond de romance, mais cependant l'empathie se fait via les liens familiaux des familles juives déchirées par ces rafles. De plus, ce film, bien qu'objectivement très proche de la réalité historique globale, fait également écho à une actualité encore très présente aujourd'hui. Dans un premier temps, si l'on essaie de se replacer dans l'actualité de l'année 2010, année de sortie du film, les médias avaient fait relais de nombreuses profanations de tombes dans différents cimetières juifs. Les actes antisémites, bien qu'en léger recul, se comptaient à un peu plus de 800 en 2015. Et alors que les juifs représentaient moins de 1% de la population française, ils ont été la cible de 40% des actes racistes commis en France en 2015. Alors, nous pouvons conclure que ce film s'inscrit dans une commémoration de l'événement. Les mémoires de la guerre sont très présentes en France. En effet, l'enjeu de la mémoire de Vichy est importante. Nos générations ont demandé des comptes pour la communauté juive, effrayée face à l'oubli. Les spectateurs cherchent à savoir la vérité et découvrir ce qui se passe comme l'infirmière Annette Monod dans le film.
Nous arrivons à la fin de ce tour d'histoire, avec le dernier groupe qui va nous transporter sur un autre continent à une autre époque. Antoine, Lucie, Mathieu et Raphaël reviennent sur le film Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, sorti en 2019. Ce film est l'occasion pour eux de remettre en perspective l'histoire du cinéma, et plus précisément l'histoire d'Hollywood, avec celle des États-Unis du début des années 1970. Le film, pour lequel Brad Pitt a d'ailleurs remporté l'Oscar du meilleur second rôle ce week-end, est un hommage à l'histoire du cinéma, mais aussi à une époque particulière que les étudiants de ce groupe ont choisi de présenter.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique donc sur Radio Campus, présentée par moi-même Mathieu, en compagnie de Raphaël, Lucie et Antoine. Donc nous, aujourd'hui, nous allons parler d'un film... Nous allons parler d'un film Once Upon a Time in Hollywood. C'est un film qui a fait plus de 2,5 millions d'entrées en France, qui a attiré beaucoup d'admiration, mais également beaucoup de controverses. C'est pourquoi nous sommes donc venus ici pour interpréter l'usage de ce film dans l'histoire de la société américaine. Donc, dans les grandes lignes, nous pouvons savoir que ce film il est autour de deux personnages qui sont Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, qui interprètent le personnage de Cliff Booth d'un côté et de l'autre Rick Dalton. Ce sont deux personnages qui déambulent dans le Los Angeles des années 70 et plus précisément le Hollywood de l'année 1969. Ils sont charismatiques dans leur rôle. Leur péripétie nous permet de voir plein de personnages de cinéma, comme par exemple Steve McQueen ou encore le réalisateur Sergio Corbucci.
Ceux qui veulent aller voir Once Upon a Time, Il faut pas y aller pour voir un film d'action à la Tarantino habituel. En fait, c'est un film où pendant presque 2 heures, il ne se passe rien. En fait, toutes les actions du film sont uniquement une série faramineuse d'hommages à l'époque particulière d'Hollywood, avec de nombreuses reconstitutions historiques. On y voit donc l'âge d'or d'Hollywood, vu selon Quentin Tarantino, qui a grandi dans ce Hollywood des années 70. Justement, ces années, fin d'années 50, 60 et 70, sont généralement choisies pour réveiller une nostalgie cinématographique. Mais là, c'est plutôt les années 70 qui sont de mise. Donc en fait, si vous voulez aller voir Once Upon a Time, enfin, si vous voulez le voir, puisque aujourd'hui il n'est plus au cinéma, vous irez le voir pour être nostalgique et voir Brad Pitt et DiCaprio évoluer dans le Hollywood des années 70. Donc ce Hollywood des années 70 également est caractérisé par l'expansion économique et la société de consommation. Donc c'est ce qu'on verra un peu plus tard dans notre développement.
Ouais, effectivement, vous me dites que donc il y a un apport d'Hollywood, ça parle énormément d'Hollywood, etc. Mais c'est vraiment centré là-dessus. Et qu'est-ce qu'on peut dire donc concrètement donc sur ce Hollywood-là? Qu'est-ce qu'on peut voir?
Eh bien, on peut remarquer que d'abord bon nombre d'acteurs sont représentés et Tarantino se concentre beaucoup sur les coulisses des tournages. On s'y intéresse grandement. Et on a certaines personnalités comme Bruce Lee qui sont sujets à controverse, mais on a remarqué que Tarantino n'essayait pas de se moquer du personnage. Il voulait surtout rester dans l'hommage et dans l'image populaire qu'on a de Bruce Lee. Il cherche l'authenticité du personnage dans la scène où on le retrouve avec Brad Pitt. Et du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, les coulisses des tournages sont importantes, les décors et la post-production, ainsi que les tensions de tournage, tout est représenté. Et on essaye de prendre le Hollywood dans toute sa globalité. Et donc le personnage de Rick Dalton va signer pour des western spaghetti. On a un hommage à un certain Sergio Leone. Du coup, ce personnage est en plein questionnement pendant le film sur sa qualité de jeu et même sur lui-même. Il se trouve has-been et fait preuve d'un manque de confiance en lui considérable. Et on peut se demander si ce personnage n'est pas une représentation aussi de Tarantino à l'heure d'aujourd'hui, vu que le cinéma s'émancipe vers quelque chose de plus moderne et technologique. Et dans certaines interviews, il affirme qu'il arrêtera totalement de filmer et de faire des films quand l'utilisation de la caméra pellicule 35 mm disparaîtra. Parce qu'on perd, selon lui, on va perdre l'originalité du film, du cinéma, le grain de l'image, les couleurs. Et c'est un manque à gagner, puisqu'on perdra quand même un grand réalisateur de cinéma.
Qui d'ailleurs a annoncé que à son dernier film, donc le 10e, arrêtera de toute manière le cinéma et il s'engagera plus dans des pièces de théâtre ou des coproductions. Donc on attend avec impatience son 10e et dernier film.
Effectivement. D'ailleurs, du coup, comme on l'a vu, centré sur Hollywood, centré sur deux personnages, mais concrètement, l'histoire américaine des années 70, c'est quoi?
Alors. Comme dit précédemment, j'en avais parlé un petit peu, l'expansion économique des États-Unis. Donc c'est la société de consommation, c'est le soft power américain. Donc dans ce film, on voit ces fameuses grosses voitures des années 70, très grandes, très larges, qui consomment 10 litres par minute, qu'on ne peut plus voir aujourd'hui. On en a un peu nostalgique, moi le premier. Et les vêtements d'époque également. C'est vraiment que de la nostalgie. On peut également voir les objets d'époque, notamment quand le cascadeur Cliff Booth, incarné par Brad Pitt, rentre chez lui. On le voit traverser le Hollywood d'époque et regagner son domicile qui justement est juste derrière un drive-in. Hein, il vit dans une caravane. Et là, il y a une scène assez longue qui est assez bien filmée où en fait on voit tout le paysage, tout le décor de la caravane qui est parsemé d'objets d'époque, de magazines d'époque, de figurines d'époque. On voit la nourriture, on voit les cigarettes Rather Paul, qui sont les cigarettes de Tarantino fictives, hein, parce que Tarantino aime bien inventer ses propres marques, etc. Donc on voit l'Américain typique qui rentre chez lui le soir, qui se fait sa bouillie et qui s'avachit devant la télé, avec une bière à la main, les pieds sur la table, et puis devant les émissions d'époque. Donc,
Vous avez évoqué le driving, mais qu'est-ce que c'est un driving, s'il vous plaît?
Oui, effectivement, le driving, donc, c'est les cinémas où on venait en voiture, la plupart du temps avec sa copine, en plein air, on posait sa voiture et on regardait un film sur un écran géant. Donc c'est des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui, mais ça nous rappelle un peu ces années 70, 60. Ça se faisait beaucoup, surtout à la fin des années 60. 70, ça commençait un peu.
Effectivement, vous nous avez parlé donc toute la société de consommation, tout ce qu'on peut voir. C'est d'ailleurs les premières choses qui sont apparues juste après les guerres, mais les guerres mondiales. Mais là, actuellement, là, on est sur une période qui est la guerre froide, le moment de la libéralisation. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ?
Oui, tout à fait. Hein. On arrive dans une période charnière des États-Unis. Bon nombre d'événements historiques ont été présentés dans ce film. On est en 1969 à Hollywood. Richard Nixon, il est élu nouveau président des États-Unis. Il succède à Johnson. Et tandis que les émeutes de Stonewall débouchent sur un mouvement de lutte pour la libération des personnes LGBT. Mais c'est pas tout, parce que pendant cette période, on est dans cette espèce de manifestation, de transition forte entre des soldats du Vietnam qui rentrent des États-Unis mais qui sont très mal accueillis par les mouvements hippies, toujours en cours. Et cette période des États-Unis, elle est également marquée et bouleversée par l'avènement du nouvel Hollywood. Donc, c'est un mouvement cinématographique qui enterre le cinéma classique hollywoodien, dit le vieil Hollywood, et s'illustre par la prise de pouvoir des réalisateurs au sein de grands studios américains et la représentation radicale de thèmes jusqu'alors tabous et interdits. Par exemple, par le code ACE. Donc le code ACE qui va être lancé en 1930, ça va être une loi qui va interdire tout ce qui est violence ou sexualité au cinéma. Et là, on est vraiment dans un renouveau du cinéma avec la découverte de liberté d'expression et de mouvement durant les films. De plus, en plein été, donc c'est le cœur du film, le 9 août, Hollywood y sera à jamais marqué par un fait divers barbare, l'assassinat de l'actrice Sharon Tate, enceinte de 8 mois, épouse du cinéaste franco-polonais tristement célèbre aujourd'hui pour les affaires juridiques Roman Polanski, ainsi que ses amis dans sa villa par les disciples du gourou Charles Manson.
Donc, elle sera assassinée quand même avec quelques amis, hein, c'est pas la seule victime de cet acte barbare.
Ouais, donc concrètement, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le film se centre quand même essentiellement sur l'assassinat, qui semble être au final un prétexte, une petite histoire de forme sur un fond bien plus grand et bien plus complexe.
Cependant, il faut réfléchir à la manière dont l'usage de l'histoire peut être reçu par les spectateurs et les spectatrices. L'histoire tirée de ce film peut être perçue de la part de nous, spectateurs, comme une mauvaise vision des hippies à Hollywood avec la Manson Family, qui sont vus comme des sauvages. Mais on est quand même dans un monde plus libre, avec plus de liberté. C'est cette vision qu'on a à l'approche des années 70. Le but étant de rappeler à quel point cet événement est en contradiction avec Woodstock, qui se passe 6 jours plus tard. Et le temps que l'affaire Tate éclate, elle va succéder le festival et venir chasser le message pacifiste de ce dernier. Tarantino relie le fait divers, aussi horrible soit-il, avec l'histoire des États-Unis pour décrire un pays complexe à une époque qu'il adore. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was any late. Oh, California dream.
C'est avec cette dernière intervention que s'achève l'émission d'aujourd'hui. Nous espérons que ces liens entre histoire et médias et les usages de l'histoire dans nos sociétés actuelles vous auront intéressé. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission du département d'histoire de l'Université de Tours. À très bientôt et merci de votre écoute.